Des élèves de terminale du lycée Saint-Pierre vous présentent Passe ton bac d'abord.
Revoyez des grands thèmes du monde après 1945.
Bonjour, je suis Laura.
Bonjour, je suis Safia.
Dans cette chronique, nous allons vous parler du Proche et du Moyen-Orient, un foyer de conflit depuis la fin de la Première Guerre mondiale.
Pour bien comprendre ce sujet, rappelons quelques définitions. Le Proche-Orient, c'est où ? Quels pays en font partie ?
Le Proche-Orient regroupe l'Égypte, la Turquie, la Syrie, le Liban, Israël, la Cisjordanie et la Jordanie.
Le Moyen-Orient se situe plus à l'est, autour du Golfe Persique, l'Irak, la péninsule arabique, l'Iran et l'Afghanistan.
Mais le Proche et le Moyen-Orient ne sont pas seulement des pays et des frontières, c'est toute une mosaïque culturelle.
Déjà, on y trouve de nombreuses langues, l'arabe, le perse, l'hébreu pour les plus connus.
Cette zone regroupe aussi beaucoup de religions. L'islam, divisé entre les chiites et les sunnites, des minorités chrétiennes en Égypte ou au Liban, le judaïsme en Israël et encore beaucoup d'autres.
Pourquoi le Proche et le Moyen-Orient sont-ils une zone de tension ?
C'est lié à l'histoire de cette région. Les pays de cette dernière sont récents. Avant la Première Guerre mondiale, la plupart faisaient partie de l'Empire ottoman.
Mais cet empire était en déclin depuis la fin du XIXe siècle. La France et le Royaume-Uni, anticipant sa chute, signent en secret les accords Sykes-Picot.
Avec cette entente, les empires français et britanniques se partagent les différents territoires de la région.
Lorsque l'Empire ottoman éclate, la Société des Nations, prédécesseur de l'ONU, partage le Moyen-Orient en mandats. Ils sont gérés par la France et le Royaume-Uni.
C'est quoi un mandat ?
C'est un accord de tutelle donné par la Société des Nations à une grande puissance. Son but, guider le pays sous tutelle vers l'indépendance et le stabiliser au niveau politique comme économique.
À l'époque, la France obtient un mandat au Liban et en Syrie. Pour le Royaume-Uni, c'est en Égypte et dans des Émirats du Golfe.
Mais tous les pays de la région ne deviennent pas des mandats. Alors, que se passe-t-il pour les autres ?
Des États indépendants apparaissent. La Turquie devient une république laïque et l'émir Ibn Saoud fonde l'Arabie Saoudite autour de la Mecque.
Dans les années 30, plusieurs pays obtiennent leur indépendance, comme l'Irak, l'Iran ou l'Égypte. Mais les puissances occidentales placent des dirigeants modérés à leur tête pour conserver leurs intérêts dans ces pays.
Les pays du Moyen-Orient sont donc jeunes et se sont constitués entre la Première et la Seconde Guerre mondiale.
Cette période d'entre-deux-guerres est aussi synonyme de conflit.
Les Occidentaux sont critiqués et rejetés car ils contrôlent la région. C'est le développement du nationalisme arabe.
Et ce n'est pas la seule tension.
Oui, c'est aussi l'époque de soulèvements en Palestine suite à la déclaration de Balfour.
Cette déclaration est une lettre adressée par Lord Balfour à Lord Rothschild en 1917. Il l'affirme, je le cite, « Le gouvernement britannique envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et emploiera tous ses efforts pour la réalisation de cet objectif. »
Les Arabes, c'est-à-dire les descendants d'habitants de la péninsule arabique, refusent le document.
La déclaration de Balfour, c'est aussi une victoire du sionisme en politique.
Le sionisme, c'est quoi ?
C'est un mouvement politique créé à la fin du XIXe siècle. Son objectif ? Créer un État juif pour faire face à l'antisémitisme européen.
Dès la création du mouvement, mais surtout après la déclaration de Balfour, l'immigration juive en Palestine est très importante. Ce phénomène, toujours d'actualité, est appelé Alia.
Des affrontements éclatent entre les communautés juives et arabes. En réaction, le Royaume-Uni propose de partager la zone entre un État palestinien et un autre juif.
Mais les deux parties le refusent, ce qui laisse le conflit sans réponse.
Éclate ensuite la Seconde Guerre mondiale, dans laquelle le Moyen-Orient tient un rôle crucial. La région réapprovisionne les forces alliées dans les années 40.
À la fin de la guerre, les mémoires sont marquées par la Shoah, la déportation, les camps de concentration, les chambres à gaz. L'opinion culpabilise. Un projet se dessine, créer un État juif pour apporter une réelle sécurité à ce peuple. En 1948, l'ONU annonce un plan de partage du territoire de la Palestine. Plus de la moitié est attribuée à Israël. Le nouvel État voit le jour le 14 mai 1948. C'est le début de nombreux conflits israélo-arabes. Un extrait de la déclaration de l'État israélien.
Les Arabes et les Palestiniens refusent ce partage. Ils ne veulent pas remplacer une injustice par une autre. La Nakba, guerre des pierres, se déclenche. La jeunesse palestinienne, des pierres à la main, se soulève contre les forces armées israéliennes. Israël prend le dessus, et les Arabes palestiniens se réfugient au Liban ou partent vers la bande de Gaza, territoire palestinien occupé par Israël.
La fin de la guerre marque aussi un tournant déterminant pour les autres pays du Moyen-Orient. C'est la fin des mandats européens. La France se retire du Liban et de la Syrie.
Alors que le Moyen-Orient obtient tout juste son indépendance, la guerre froide éclate.
La région y prend, une fois encore, une place déterminante. L'enjeu crucial est le pétrole, convoité par les pays occidentaux.
Ces ressources d'or noir sont très exploitées à partir des années 50. Plus facile à extraire dans cette région, il coûte donc moins cher.
Là encore, chaque pays de la région est soutenu par l'une des deux puissances mondiales de l'époque. Les États-Unis s'allient à la Turquie, l'Iran et l'Arabie Saoudite. De son côté, l'URSS soutient l'Irak, la Syrie et les Arabes palestiniens.
Autre enjeu au Moyen-Orient, le canal de Suez, porte d'entrée stratégique du pétrole vers l'Occident. Les États-Unis soutiennent l'Égypte jusqu'au coup d'État du général Nasser. Le futur président égyptien choisit de nationaliser le canal, propriété du Royaume-Uni. C'est le début de la crise de Suez. Les forces françaises et britanniques s'opposent à l'Égypte. Cette défaite pour les puissances occidentales les prive du canal de Suez.
Dans le monde bipolaire de la guerre froide, l'idéologie tiers-mondiste apparaît. Elle vient du panarabisme, volonté de créer un État arabe. Il s'étendrait du Maroc à l'Irak et permettrait de s'émanciper de l'impérialisme européen.
Durant la guerre froide, les conflits israélo-palestiniens persistent aussi. Après la Nakba, c'est la guerre des six jours. L'Égypte, la Syrie et la Jordanie s'allient pour bloquer l'accès d'Israël au golfe d'Aqaba, seule ouverture sur la mer Rouge. Mais Israël repousse ses attaquants et récupère des territoires arabes appelés depuis occupés par les Nations Unies. C'est un échec de la cause arabe.
Vient ensuite la guerre du Kippour. Déclenchée en 73, année où Yom Kippour et le Ramadan ont lieu en même temps, les Syriens et les Égyptiens attaquent le Sinaï, mais sont une fois de plus repoussés par les forces israéliennes soutenues par les États-Unis. En réponse, l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole décrète un embargo sur les ventes de pétrole aux alliés d'Israël. Résultat, c'est le premier choc pétrolier. Les prix de l'or noir explosent brutalement.
En 1978, le conflit prend une nouvelle tournure avec les accords de Camp David. Cet accord de paix entre l'Égypte et Israël ne suffit pas à pacifier la zone.
En 1987, c'est la première intifada, la révolte des Palestiniens habitant en zone dite occupée par l'État d'Israël. Elle dure jusqu'en 1991 et à la fin, Israël obtient de nouvelles terres.
À cette même période, l'URSS implose et laisse pour seule puissance mondiale les États-Unis. La guerre froide est terminée. La même année, l'Irak de Saddam Hussein envahit le Koweït pour ses ressources pétrolières. Les États-Unis, suivis des autres puissances occidentales, repoussent les forces irakiennes lors de la première guerre du Golfe. Cette opération militaire, appelée Tempête du désert, est une réussite pour les États-Unis et leurs alliés.
En 1996, une nouvelle tentative de paix est proposée. Lors des accords d'Oslo, le Premier ministre israélien et le dirigeant de l'Organisation de libération de la Palestine, représentant officiel de l'autorité palestinienne, se reconnaissent mutuellement. C'est une première depuis la fondation de l'État d'Israël.
Mais cet apaisement est de courte durée. Le Premier ministre israélien est assassiné par un extrémiste sioniste. Les violences reprennent.
La décennie 2000 marque aussi l'apparition d'un nouvel islamisme. Le terrorisme se développe. Le 11 septembre 2001, le groupe islamiste Al-Qaïda commet une série d'attentats suicides aux États-Unis, choquant le monde entier.
Ces attentats sont la première attaque directe visant le continent américain. La première puissance mondiale est ébranlée.
En réaction aux attentats, les États-Unis déclarent la guerre à l'Irak. Son gouvernement est accusé d'avoir des liens avec Al-Qaïda et son leader Oussama Ben Laden. Une coalition internationale traque les talibans. Quelques années plus tard, les forces américaines retrouvent Ben Laden au Pakistan et l'exécutent.
Mais l'islamisme politique continue son développement au Moyen-Orient pendant les années 2000. En Palestine, notamment, le Hamas, mouvement politique et militaire islamiste, vient concurrencer l'Organisation de libération de la Palestine et remporte les élections en 2006.
Le Hamas revendique l'islam politique. Ça signifie qu'il souhaite que l'État applique au pays les règles de la religion musulmane. Celui-ci est dit islamiste car il est radicalisé.
L'islamisme se répand dans tout le Moyen-Orient et de nombreuses organisations terroristes voient le jour, comme Daesh ou Boko Haram. Elles sont à l'origine de très nombreux attentats dans tout le Moyen-Orient et l'Afrique subsaharienne.
À partir de 2010, des contestations populaires éclatent au Proche et au Moyen-Orient.
En Syrie, les soulèvements contre l'État sont violemment réprimés par l'armée, provoquant une guerre civile.
Je suis avec M. David Wally, gérant du magasin Pamir Artisanat à Bourg-en-Bresse. M. Wally est né en Afghanistan et est arrivé en France en 1983. Cependant, lui ne parle pas de Moyen-Orient, mais d'Asie centrale. Il va nous parler de son pays.
Les Russes y sont entrés en 1979 en Afghanistan. Moi, j'étais étudiant là-bas. On n'avait jamais pensé de quitter l'Afghanistan, d'aller sur l'Europe, parce que nous, on pensait que le pays, l'Afghanistan, c'était en plein d'évolution, et des gens qui pensaient que l'Afghanistan, on va avancer au niveau de technologie, les étudiants, tout ça. Quand j'ai demandé des réfugiés politiques en France, c'est à cause de l'armée rouge. Depuis 1979, l'Afghanistan, il est tombé dans les mains de l'armée rouge, qui c'est quand même, il y a des morts de deux côtés. C'est pour rien, c'était des idées politiques.
Est-ce que vous pourriez nous parler du rôle de l'Afghanistan dans la guerre froide et de l'impact des États-Unis et de l'URSS sur le pays ?
Il y avait un président afghan qui s'appelait, comme moi, David ou Daoud, qui voulait avancer le pays. Il disait même avec les Russes, laissez-nous tranquilles. Quand il a prononcé ce mot, c'est là que les Russes, il a dit, ils vont y aller vers les Américains. C'est là que les Russes, ils ont commencé l'exécution de ce président afghan qui s'appelait président Daoud, que c'était quelqu'un de très intelligent. Et puis, les Afghans, ils étaient depuis la naissance d'Afghanistan, on était divisé entre deux puissances mondiales, Russes et l'Amérique. L'Afghanistan, il ne veut pas être indépendant tout seul. Et chaque Afghan qui dit « nous laissez tranquille », et les Russes ou l'Amérique, ils non. C'est impossible. Toujours, il faut qu'on le mette avec quelqu'un de puissance ou les États-Unis ou l'URSS. Et maintenant, qu'on a nos amis américains qui sont venus à cause des talibans, mais aujourd'hui, voilà, ça fait 10-15 ans que c'est passé, on a encore talibans, ils sont actifs en Afghanistan. Ces intégristes, par qui ils soutiennent, qui donnent les armes, qui, et aujourd'hui, beaucoup majorité de jeunesse afghane, dans la province d'Afghanistan, il y a toujours conflit, sauf capitale. Et maintenant, un capital, il a monté à 9 millions d'habitants des Afghans ou des gens tchétchènes qui viennent d'Irak, ils viennent de Pakistan aussi, là, Kaboul. Il y a trop de population. Trop de population et puis incontrôlable. Ni police, ni l'armée, ils sont impuissants pour contrôler les populations capitales. Et ça pose des problèmes énormes international et la sécurité des Afghans.
Est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue sur l'Afghanistan d'aujourd'hui et quel avenir pour votre pays ?
La jeunesse aujourd'hui en Afghanistan, ils sont très attachés à le pays. Toutes les Afghans que j'ai entendus, journalistes ou la radio ou la télé, moi je pense qu'il y a un débat national que les Afghans, ils disent que ne partez pas les Afghans dans le pays étranger, ni quittez pas le pays, il faut on reste et construire l'Afghanistan. Il y a des équipes de foot, des filles qui jouent le foot là-bas à Kaboul, je les ai vues. Il y a des sportifs. Moi, je leur fais des cours des arts martiaux. Je suis prof de l'aïkido en France. Je leur fais donner des cours d'aïkido là-bas. Ils étaient très, très contents. Les salles bien équipées. Ils ont des laboratoires médicaux. Tous les Afghans, maintenant, ils créent des grandes surfaces, créent des emplois. À Kaboul, j'ai vu que des choses, ça n'existait pas. Maintenant, tout est mis en place. Il y a des jeunes Afghans qui viennent de l'Europe. Il y a des jeunes Afghans des États-Unis. J'ai vu vraiment que depuis 2 ans, je ne suis pas allé à Kaboul. Maintenant, je ne reconnais plus Kaboul. Moi, je pense que l'avenir Afghanistan, avec une nouvelle génération, si on le laisse en paix, je pense qu'en moi, je vous garantis qu'Afghanistan, dans 15 ans, on ne reconnaît plus.
C'est la fin de cette dernière chronique.
Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés tout au long de l'année.
Ça a été un plaisir pour nous de travailler sur ce projet. Merci à Audrey Radondi, journaliste de Radio B, de nous avoir accompagnés dans la réalisation de ces chroniques, et à Madame Révillon, professeure d'histoire-géographie au lycée Saint-Pierre, pour ce projet.
C'était « Passe ton bac d'abord »,
des chroniques proposées par des élèves de terminale du lycée Saint-Pierre.
Retrouvez-nous chaque mois sur Radio B et en podcast sur radio-b.fr.